Vous écoutez RFI Radio France Internationale, il est maintenant 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel. Pour l'actualité africaine d'un RFI Matin, François Ballarin. Bonjour François.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, la Mauritanie, toujours dans l'attente des résultats provisoires de son élection présidentielle.
Et selon les chiffres de la commission électorale, le président sortant Mohamed Ouldcher Razouani est en tête avec 56% des voix, des chiffres contestés par son principal opposant Biram Dahabed. Le gouvernement de transition poursuit son tour de vis contre les médias au Burkina Faso, journaux suspendus ou mis en demeure, disparition de journalistes pour l'opposition. Les autorités veulent empêcher les Burkinabés de penser par eux-mêmes. La nouvelle constitution togolaise, toujours dans le viseur de l'opposition et de la société civile, reportage à Lomé, où elles ont tenté de mener des actions de sensibilisation de la population sur les risques du nouveau texte. Au Mali, ouverture ce lundi d'une session spéciale de la Cour d'assises sur les crimes économiques et financiers, dans le viseur de la justice, plusieurs anciens ministres et d'anciens hauts cadres de la société civile. Dans ce journal, nous sommes aussi au Gabon, où l'ancien président Ali Bongo a arrêté sa grève de la faim, mais aussi en Guinée, où l'avocat du colonel Sadi Bakouli Bali dénonce la mort de son client et que le barreau de Guinée exige une enquête indépendante. En Mauritanie, la commission électorale a terminé le dépouillement et la compilation de 100% des suffrages exprimés lors de la présidentielle. Mais le pays reste dans l'attente de la proclamation des résultats par la commission électorale. Le site officiel de la CENI donne une avance au président sortant, Mohamed Ouldcher Razouani, avec 56% des voix. Des chiffres disponibles en ligne, mais toujours pas de proclamation officielle de ces résultats globaux provisoires. Résultats contestés dans la soirée par l'opposant Biram Dahabed. Il a fait savoir qu'il ne les reconnaîtra pas, les précisions de Léa Lisa Vesteroff.
Les résultats officiels mais provisoires qui sont publiés sur le site internet de la Commission électorale nationale donnent le président sortant en tête avec une avance qui n'est plus rattrapable par ses adversaires politiques. Une hypothèse inacceptable pour son principal opposant, le militant des droits de l'homme Biram Dahabed, deuxième selon ses résultats provisoires. Il accuse la Commission électorale d'être instrumentalisée par le pouvoir et d'avoir commis des fraudes, notamment du bourrage d'urnes dans quelques 700 bureaux de vote où les représentants de son parti auraient été chassés, selon lui. Biram Dahabed rejette donc ces résultats et dit procéder à son propre comptage. Il promet de le rendre public dans les prochaines 24 heures et appelle à des manifestations pacifiques pour contester ces résultats. Peu de temps après ces déclarations, le siège du parti de Biram Dahabed a été encerclé par la police, l'accès à son QG bouclé par deux véhicules des forces de l'ordre et des policiers anti-émeutes. Dans le reste de la ville, plusieurs axes se sont retrouvés barrés par la police, les véhicules contrôlés, alors qu'en début de soirée, des manifestations ont été signalées dans au moins trois quartiers populaires avant d'être dispersées. Léa Lisa Vesteroff, Nouakchott, RFI.
Au Burkina Faso, toujours pas de nouvelles du journaliste Adama Bayala, un homme qui n'hésitait pas à critiquer les actions du gouvernement de transition. Cette disparition intervient au moment où la politique répressive des autorités contre les médias se poursuit. Le journal L'Événement est suspendu un mois, suspension de 15 jours pour une émission de la chaîne de télévision BF1, tandis que le site Faso.net est lui mis en demeure par le Conseil supérieur de la communication. À cela s'ajoute l'arrestation et la disparition de deux journalistes, Serge Houlon et Ralif Arassé. Un bâillonnement des médias, s'insurge le mouvement politique Sens dans un communiqué publié vendredi dernier. Le parti de Guy Hervé Kam, lui-même emprisonné, dénonce des pratiques d'un autre âge qui visent à empêcher la presse et au-delà les Burkinabés de penser par eux-mêmes. Yopore Kassomé, porte-parole du mouvement politique Sens.
Non seulement la parole des Burkinabés, mais aussi ce qu'ils pensent. Alors ça, c'est extraordinaire. Voilà ce que vous devez penser. Mais qui sont-ils pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser? Il y a déjà des lois. Il y a déjà des lois qui répriment bon, les idées ou les faits qui doivent être réprimés. Appliquons ces lois tout simplement et ça suffit. Ne cherchons pas à contrôler les idées ou les pensées ou les opinions des personnes. Et donc, notre déclaration s'adresse bien sûr aux autorités, d'abord au CSC, aux autorités du MPSR, mais aussi au peuple burkinabé pour dire trop c'est trop, il faut arrêter ça. Tous ceux qui ont quelque chose à dire, qui va dans un autre sens que ce que les autorités veulent entendre. Et c'est de tuer la réflexion, tout simplement. Pour faire place à quoi? Simplement à ce que les autorités considèrent comme étant la vérité. Cette société-là, excusez-moi, ça s'appelle la dictature. Maintenant, s'ils veulent assumer cette façon de faire et de dire « vous n'avez pas le droit de penser autrement que le gouvernement et les autorités en place », alors qu'on nous le dise clairement.
Des propos recueillis par Frédéric Gara. On reste au Burkina Faso où l'actualité est également sécuritaire. Fin de semaine meurtrière pour les forces armées. Une vingtaine de soldats du 3e bataillon d'intervention rapide ont été tués au cours d'une embuscade samedi à Ouargaï, dans le centre-est du pays. Ces soldats et des volontaires pour la défense de la patrie participaient à une opération de ratissage quand des groupes armés terroristes les ont attaqués, selon des sources sécuritaires. Et puis, dans la région du centre-nord, au moins 15 VDP et plusieurs civils tués samedi dans l'attaque de la commune de Tougouri, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Kaya, selon des sources sécuritaires, mais aussi des habitants de la région. Au Togo, les organisations de la société civile et l'opposition toujours vent debout contre la nouvelle constitution. Le texte promulgué par le président de la République le 6 mai dernier continue de susciter des remous des organisations de la société civile, mais également plusieurs partis de l'opposition ont donné rendez-vous à la population dans le centre-ville de Lomé pour mener des actions de sensibilisation. Une foule en attente d'informations a répondu à l'appel. Le reportage sur place de Peter Sassou Dogbé.
Le temps d'un après-midi, le terrain de jeu est devenu un terrain qui porte la colère de citoyens togolais. Comme Bertin, il est étudiant à l'université de Lomé et appelle à une prise de conscience face à la situation dans laquelle est plongé le pays.
Nous sommes missionnaires et notre mission est désormais d'éveiller les consciences encore endormies, d'encourager les consciences éveillées et de combattre pour la justice et la liberté.
Syndicats et individus ont exprimé leur indignation face à la modification de la Constitution et accusent le pouvoir d'avoir agi sans concertation. Les autorités togolaises avaient organisé des rencontres avec des associations et les chefs traditionnels pour expliquer le projet. Mais cette nouvelle Constitution est inacceptable, réaffirme le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, le professeur David Dosset.
Le changement de Constitution qui a été élaboré au Parlement en violation des dispositions constitutionnelles et qui nous impose un régime soi-disant parlementaire, mais qui cache tout simplement une volonté d'un régime de s'éterniser, de ne jamais accepter une alternance. Voilà la réalité contre laquelle nous avons décidé de continuer le combat.
Le porte-parole de Togo Debout assure que de grandes manœuvres ont commencé au sein de l'opposition avant de conclure, je cite, « nous allons faire barrage » contre la forfaiture. Peter Sassou Dogbé Lomé, RFI.
Au Mali, plusieurs anciens ministres, anciens hauts cadres de la société civile dans le viseur de la justice. Ce lundi s'ouvre à Bamako une session spéciale de la Cour d'assises sur les crimes économiques et financiers. Elle va siéger pendant près de deux mois, se pencher sur plusieurs grands dossiers. Ils portent sur des atteintes aux biens publics, blanchiment de capitaux ou encore faux et usage de faux. Le point avec notre correspondant régional, Serge Daniel.
Sur la table de la session spéciale de la Cour d'assises de Bamako, une cinquantaine de dossiers à la barre, 181 accusés dont une quinzaine de femmes sont attendues. Parmi elles, l'ex-ministre malienne des Finances et de l'Économie, Madame Boiré Philippe Sissoko. Elle est citée dans une affaire d'achat d'équipements militaires dans laquelle elle a toujours clamé son innocence. C'est dans le même dossier qu'on retrouve l'ex-premier ministre malien Soumeilou Boubé Maïga, décédé en détention en mars 2022. Au nom des affaires phares, il y a aussi le dossier de la Société d'énergie du Mali, EDM, ancien ministre au cadre de la société, devrait comparaître pour répondre notamment d'atteinte aux biens publics ou encore de faux usage de faux. Les regards seront également tournés vers le dossier de ristourne des producteurs de coton impliquant un ancien responsable de la filière et une douzaine de co-accusés. Dans ce dossier, en 2021, un verdict controversé avait été prononcé avec libération du principal accusé. La justice avait fait appel, ce qui conduit aujourd'hui à un nouveau jugement devant la cour d'assises. Serge Daniel, Lagos, RFI.
Au Gabon, nous ne l'apprenons que maintenant. L'ancien président gabonais a cessé sa grève de la faim au début du mois dernier. L'ex-chef de l'État, Ali Bongo, avait cessé de s'alimenter le 14 mai dernier pour protester contre le traitement réservé à son épouse Sylvia et leur fils Noureddine, tous deux incarcérés. Leurs avocats dénonçaient une séquestration et des actes de torture. Leur entourage s'inquiète d'ailleurs de leur sort alors que ce lundi débute la vacance judiciaire dans le pays. Les précisions de Sébastien Némette.
La grève de la faim d'Ali Bongo a cessé fin mai, juste avant la visite du président Oligui Nguema en France le 28. Son entourage l'a supplié d'arrêter. Il avait perdu du poids et sa mobilité s'était dégradée, confie un proche. Après deux semaines sans s'alimenter, l'ancien président serait en bonne santé, mais un de ses anciens kinésithérapeutes a été rappelé pour lui prodiguer des soins. Une bonne source évoque un possible accord entre Ali Bongo et le pouvoir, puisque quelques jours plus tard, ses deux fils, Djalil et Bilal, qui vivaient avec lui dans sa résidence, ont pu quitter le Gabon. Ils se trouvent désormais désormais à Londres avec leur tante Léa. Ils reçoivent un soutien psychologique car ils ont été maltraités et sont traumatisés, indique-t-on dans l'entourage. Ali Bongo se retrouve donc un peu plus isolé alors que son épouse et son fils aîné sont toujours emprisonnés. Les vacances judiciaires commencent ce lundi. La juge d'instruction va s'absenter jusqu'au 19 août, donc rien ne va se passer dans le dossier, regrette une bonne source. Pendant cette période, il n'y aura donc pas d'audition ni d'acte judiciaire. Ils ne verront pas leurs avocats alors qu'on sait qu'ils sont très stressés et démoralisés, indique un proche, rappelant que malgré une lettre du ministre de la Justice, leurs conseils n'ont toujours pas le droit de leur rendre visite en prison. L'instruction, elle, continue, l'enquête de moralité et l'examen du CV étaient en cours et l'on pensait que la procédure touchait à sa fin, mais la juge a indiqué qu'il restait des confrontations et des auditions à réaliser.
Sébastien Nemeth. En Guinée, le colonel Sadiba Koulibaly a été enterré vendredi dans son village natal de Magali Faraba, près de la ville de Mandiana, située à la frontière malienne. Alors qu'il était en détention dans un lieu tenu secret pour désertion, l'ancien chef d'état-major général des armées est officiellement mort le 22 juin dernier d'un arrêt cardiaque dû à un psychotraumatisme et un stress prolongé, selon le procureur militaire qui a annoncé sa disparition. Mais les circonstances de ce décès restent troublantes, tant les zones d'ombre et les incohérences dans la procédure judiciaire sont nombreuses. On va plus loin avec Sidi Yansané.
Condamné 8 jours avant sa mort officielle à 5 ans de prison ferme pour désertion et détention illégale d'armes, le général Sadiba Koulibaly, rétrogradé colonel à l'issue du procès, avait été conduit à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. D'après son avocat, il devait ensuite être conduit à la maison centrale, la grande prison de Conakry, qui abrite notamment les accusés du procès du 28 septembre, mais il n'y arrivera jamais et sera gardé dans un lieu inconnu jusqu'à l'annonce de son décès. C'est donc à la gendarmerie que maître Lansigné Diabaté a vu son client pour la dernière fois.
On s'est quitté là-bas ce vendredi-là. Il était serein, il était bien portant. Il nous a jamais dit qu'il a mal, qu'il a un mot de tête, à fortiori d'autres maladies. Ceux qui étaient dans la salle d'audience, ils l'ont suivi devant tout le monde parce que l'audience était publique au tribunal militaire. Parce que préalablement, il y a eu des violations, des procédures. C'est la raison pour laquelle notre barreau a demandé non seulement l'autopsie, et que ces auteurs-là soient livré maintenant devant acquis des droits.
Le barreau de Guinée exige effectivement une enquête indépendante et demande au procureur militaire de révéler le lieu de détention du colonel Koulibaly. Autre zone d'ombre, le haut gradé a officiellement rendu l'âme le 22 juin, mais son certificat de décès n'a été signé que 2 jours plus tard. Le barreau condamne également, je cite, « des pratiques que le peuple de Guinée croyait à jamais révolues ».
Sidi Yansané, en bref, enfin un nouveau gouvernement en Afrique du Sud, plus de 10 jours après l'investiture de Cyril Ramaphosa. Pour un nouveau mandat, le chef de l'État a dévoilé un gouvernement d'union nationale extrêmement élargi, 75 ministres et ministres adjoints, 9 partis différents représentés. C'est la fin de ce journal, la suite d'RFI Matin avec Arnaud Pontus.
Merci François Ballarin, à tout à l'heure.